Volume 4, les œuvres de George Fox, livre doctrinaux y suite la divinité des païens, établie sur la tête de tous ceux qu'on appelle chrétiens, qui disent qu'ils n'auraient pas su qu'il y avait un Dieu, ou un Christ, si l'Écriture ne le leur avait déclaré. Ce sont de tels prophètes qui disaient « Ainsi parle le Seigneur, et le Seigneur ne leur a jamais parlé. » Jer 14:14 Vous n'avez jamais entendu sa voix, ni vu sa forme, et la parole de Dieu ne demeure pas en vous. Jean 5:37-38 Qui ont l'apparence de la piété, mais en renie la puissance, détourne-toi de tels gens. 2 Tim 3:5 Par George Fox Gen 12:14-19 Nous lisons comment Abraham descendit en Égypte avec sa femme, et comment les princes y vantèrent sa beauté à Pharaon, roi d'Égypte, qui vit qu'elle était belle, et Pharaon la prit dans sa maison, et traita Abraham favorablement à cause d'elle, et comment le Seigneur frappa la maison de Pharaon d'une grande plaie, à cause de Sarah, femme d'Abraham, et Pharaon fit appeler Abraham et lui dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait ? Pourquoi ne m'as-tu pas dit qu'elle était ta femme ? J'aurais pu la prendre pour femme, maintenant donc, voici ta femme, prends-la, et va-t'en. » Or qui avait-il donc en Pharaon qui l'amena à considérer les plaies de Dieu qui étaient sur sa famille, à cause de Sarah, etc. N'était-ce pas là un principe divin, une puissance divine, qui le conduisit à obéir au Seigneur Dieu, lui qui n'avait pas la loi écrite au dehors ? Pharaon ne juge-t-il pas tous les chrétiens qui convoitent les femmes d'autrui, tant les protestants que les papistes ? Pharaon ne les juge-t-il pas tous ici ? Pharaon qui rendit la femme à l'homme et ne coucha pas avec elle, et ne fit que la prendre d'abord dans sa maison, pensant qu'elle était vraiment sa sœur, et lorsqu'il en fut frappé, il la rendit à son mari et ne la prit pas pour femme. Ainsi donc, ici, la pratique de Pharaon ne surpasse-t-elle pas, en cette chose même, les pratiques des protestants et des papistes ? Gen 20:2-5-6-7, nous lisons qu'Abraham dit de Sarah sa femme, « Elle est ma sœur, et comment Abimélec, roi de Guérar, enleva Sarah à Abraham, mais Dieu apparut à Abimélec en songe et lui dit, Tu mourras à cause de la femme que tu as prise, car elle est la femme d'un homme, et Abimélec ne s'était pas encore approché d'elle. » Remarquez maintenant ce qu'Abimélec dit, « Seigneur, feras-tu périr un peuple juste ? Ne m'a-t-il pas dit, elle est ma sœur ? Oui, et n'a-t-elle pas dit elle-même, il est mon frère, c'est avec un cœur pur et des mains innocentes que j'ai fait cela. » Et Dieu lui dit en songe, « Je sais bien que tu l'as fait avec la pureté de ton cœur, je t'ai aussi retenu, afin que tu ne pèches pas contre moi, c'est pourquoi je ne t'ai pas permis de la toucher. Maintenant donc, rends la femme à son mari, car il est prophète, et il priera pour toi, afin que tu vives, mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras certainement, toi et tous ceux qui sont à toi. » Remarquez maintenant, vous tous papistes et protestants qui dites, « Nous n'avons jamais entendu la voix de Dieu, ni celle du Christ, voyez comment Abimélec parla avec Dieu, et Dieu avec lui dans une vision ou un songe, et comment Dieu reconnut que son cœur était pur, et comment il avait gardé de la femme d'un autre homme, bien qu'il l'eût regardée innocemment comme étant réellement la sœur d'Abraham et non sa femme. Ainsi, l'obéissance d'Abimélec et la puissance divine de Dieu en lui, ne jugent-elles pas tous vous papistes et protestants qui convoitez les femmes d'autrui, et vous manifestez impurs et non innocents ? Et de plus, voyez comment Abimélec rapporta ce que Dieu lui avait dit aux oreilles de ses serviteurs, et comment il obéit à la voix de Dieu et rendit la femme d'Abraham. Et comment il demanda à Abraham en quoi il l'avait offensé, pour qu'il eût fait venir sur lui et sur son royaume un si grand péché. Remarquez donc comment Abimélec considérait comme un très grand péché de prendre à un homme sa femme, lui que vous chrétiens regardez comme un simple païen. Et pourtant, vous papistes et protestants qui vous appelez chrétiens, vous pouvez faire de telles choses, vous qui dites n'avoir jamais entendu la voix de Dieu, vous êtes plus ténébreux qu'Abimélec. N'y a-t-il pas eu plus de vertus et de divinités vues et manifestées en Abimélec qu'en vous papistes et protestants, qui convoitez les femmes d'autrui et les leur prenez, alors que votre pratique n'est selon ni la loi ni l'Évangile, bien que vous professiez les deux d'après la lettre Bible ? Et celui qui n'avait pas de lettre Bible vous condamne tous deux en pratique. Et maintenant, pour disculper Abraham de l'opprobre que papistes et protestants jettent sur lui, comme s'il avait menti en niant que Sarah fut sa femme et en l'appelant sa sœur, ce passage de l'Écriture qu'ils invoquent pour plaider en faveur du mensonge en cas de nécessité, et ainsi du péché tant qu'ils vivent, et pour montrer comment ils peuvent mentir avec autorité, ayant Abraham le fidèle pour exemple, Abraham dit à Abimélec, « En vérité, Sarah est bien ma sœur, car elle est la fille de mon père, quoique non la fille de ma mère, et elle est de... » Ainsi, elle était à la fois sa sœur et sa femme en vérité, et aucun mensonge ne peut être imputé à Abraham en cette affaire, comme le font les faux protestants et les papistes, qui l'accusent et le donnent pour menteur afin de soutenir leurs mensonges, pour qu'ils soient tolérés à vivre dans le péché, qui ont manqué de prendre un vrai exemple, car ils auraient dû désigner le diable, père du mensonge, et non Abraham, père des fidèles. Car Sarah était à la fois femme et sœur. Ainsi, ici, papistes et protestants sont condamnés par Abimélec, qui a entendu la voix de Dieu, et pourtant n'avait ni loi ni évangile, ni lettre, ce que les chrétiens ont, eux qui disent, « Nous n'avons jamais entendu la voix de Dieu, bien qu'ils aient la lettre de la loi et de l'évangile », tandis que lui n'avait ni la lettre de la loi ni celle de l'Évangile, et pourtant il entendit la voix de Dieu. N'y a-t-il pas là de la divinité en lui, et n'a-t-il pas dit des choses divines ? Lisez Gênesis 20. Gênesis 26, 8, 11, où nous lisons comment Abimélec, roi des Philistins, dit à Isaac que, certainement, Rebecca est ta femme, et pourquoi nous as-tu fait cela ? Car l'un de mon peuple aurait pu coucher avec ta femme, et ainsi tu aurais fait venir le péché sur nous. Et il ordonna à tout son peuple de ne toucher ni à cet homme ni à sa femme, car quiconque le ferait devrait mourir. Considérez maintenant quelle vertu il y avait en cet Abimélec, et combien il était soucieux de lui-même et de son peuple, de peur de commettre un péché avec la femme d'un autre, et combien protestants et papistes sont loin de cette délicatesse, eux qui prétendent être soumis à la loi et à l'Évangile et pourtant ne gardent ni l'un ni l'autre, mais convoitent les femmes d'autrui, tandis que celui qui n'a ni loi écrite ni Évangile obéit à la loi et à l'Évangile, ne voulant ni lui-même, ni permettre à son peuple, de se mêler de la femme d'un. Voyez donc combien ce qu'on appelle la chrétienté manque de cette vertu qui était en Abimélec, roi des Philistins, qui n'avait ni loi écrite ni Évangile. Combien, dis-je, sont loin de cette puissance et vertu divine ceux qui professent la loi, l'Évangile et la divinité, par rapport à ce qui était en lui, que tous en jugent. Exode 8, 16-19, le Seigneur ordonna à Moïse qu'Aaron étendit sa main et avec sa verge frappa la poussière du pays d'Égypte, et Aaron fit ainsi. Alors toute la poussière du pays d'Égypte fut changée en poux, mais les enchanteurs ne purent, avec tous leurs enchantements, produire un poux, si bien que les enchanteurs dirent à Pharaon, roi d'Égypte, c'est le doigt de Dieu. Ainsi, vous voyez ici que les enchanteurs reconnurent le doigt de Dieu qui avait changé la poussière du pays en poux. Voyez maintenant, vous professeurs, papistes et protestants, comment pouvez-vous penser que ces enchanteurs aient pu reconnaître que c'était le doigt de Dieu, eux qui n'avaient ni loi écrite ni évangile, comme vous dites, sans quoi, dites-vous, vous n'auriez pas su s'il y avait un Dieu ou un Christ, si, dites-vous, l'écriture écrite ne vous l'avait pas déclaré, et pourtant ces hommes, qui n'avaient ni loi écrite ni évangile, confessèrent le doigt de Dieu au roi Pharaon. Donc n'était-ce pas une puissance divine en eux qui confessa le doigt de Dieu, et une puissance plus divine en eux qu'en vous, qui vous appelez professeurs croyants, soit protestants soit papistes, qui dites que vous n'auriez pas su qu'il y avait un Dieu si l'Écriture ne vous l'avait déclaré, et pourtant ceux-ci pouvaient le déclarer, eux qui n'avaient vraisemblablement jamais entendu parler de l'Écriture, mais étaient contre les Juifs et Moïse, qui reçut l'Écriture et écrivit l'Écriture. Exode 18, 19, 21, quelle Écriture avait Jéthro pour dire toutes ces bonnes paroles à Moïse, son gendre, lorsqu'il le rencontra dans le désert, paissant et conduisant les enfants d'Israël vers Canaan. Car, dit-il à Moïse, Dieu sera avec toi, et toi, sois pour le peuple auprès de Dieu, afin que tu apportes les causes à Dieu, et tu choisiras parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, haïssant la cupidité, et tu les établiras chefs du peuple. Voyez, quelle parole courageuse et quel langage Jéthro, prêtre madianite, adressa à Moïse, lui qui n'avait ni loi écrite ni évangile, et pourtant, n'a-t-il pas parlé ainsi par une puissance divine du Seigneur ? Et Moïse lui fut soumis, tant s'en faut qu'il ne le reprit pour ce qu'il disait, au contraire il approuva son conseil, au point de le mettre en pratique à la satisfaction de tout Israël. Nombre 23 et 24, où vous pouvez voir quelles grandes choses, prophétise et parabole Balaam prononça, lui qui n'avait ni écriture, ni loi, ni évangile ainsi appelé. Et comment, vous papistes et protestants, pensez-vous qu'il ait pu dire de telles choses, n'ayant pas d'écriture ? Il est dit, le Seigneur ouvrit les yeux de Balaam, et la parole du Seigneur vint à lui, et l'Esprit de Dieu vint sur lui. Ainsi ces choses et bien d'autres sont rapportées, que Balaam prononça, lui qui vit l'étoile de Jacob et qui n'avait pas d'écriture dès lors, lui et son ânesse ne vous reprennent-ils pas tous, vous qui dites n'avoir jamais entendu la voix de Dieu, ni celle du Christ, et n'avoir pas connu Dieu ou le Christ, si la loi ou l'Évangile écrit ne vous l'avait déclaré. Et ainsi, n'y avait-il pas plus de divinité en lui ? N'a-t-il pas dit des choses plus divines, venant de Dieu et portant sur Dieu, que vous, qui dites n'avoir jamais entendu la voix de Dieu, car vous ne dites que ce que d'autres ont dit dans l'Écriture, mais lui disait ce qu'il avait reçu de Dieu ? Et bien que Balaam convoita les récompenses de Balak, qu'il aurait reçues pour maudire le peuple d'Israël, Dieu l'empêcha pourtant de maudire. Cependant, n'avait-il pas plus de divinité ? Et n'a-t-il pas dit des choses plus divines que vous, Balaamites, qui répétez les paroles d'autrui dans l'Écriture ancienne et nouvelle pour des récompenses, et vous n'avez jamais entendu la voix de Dieu, comme Balaam l'a entendu, ainsi que vous l'avez confessé. Au chapitre 22-20-30, comment le Seigneur ouvrit la bouche de l'ânesse de Balaam pour le reprendre, Moïse l'a consigné comme vérité, mais si cela s'était passé de votre temps, vous qui dites qu'on n'entend pas la voix de Dieu ni celle du Christ, vous auriez jugé cela comme une imagination. Mais l'ânesse de Balaam peut vous reprendre tous, vous qui devenez fous en prêchant pour des récompenses et des dons, en maudissant, en excommuniant, en emprisonnant ceux qui ne donnent pas, ne vous mettez pas cela dans la bouche. Est-ce 6 et 13, où vous pouvez voir ce que dit la femme d'Aman, si Mardochée est de la race des Juifs, devant qui, parlant à son mari, tu as commencé à tomber, tu ne prévaudras pas contre lui, mais tu tomberas certainement devant lui. Or, qu'est-ce qui prononça ces paroles dans sa femme, elle qui auparavant avait poussé son mari à chercher la destruction de Mardoché et de tous les autres Juifs, et l'avait conseillé d'élever pour lui une potence haute de 50 coudées, et pourtant ensuite, elle dit, « Si Mardoché est de la race des Juifs, devant qui tu as commencé à tomber, etc. » Comment cette femme a-t-elle pu dire cela, ou prophétiser, elle qui n'avait ni écriture, ni loi écrite, ni évangile, mais qui était contre les Juifs qui avaient la loi, n'auriez-vous pas, vous chrétiens, dit qu'elle était une folle, une prédicatrice folle, pourtant elle ne pouvait pas tirer de telles choses de l'écriture, ses paroles ne se sont-elles pas accomplies? Ne tomba-t-il pas devant Mardoché, et ne fut-il pas pendu à la même potence qui avait été dressée pour Mardoché? En cela, n'était-elle pas prophétesse? Quelles écritures Job avait-il pour prononcer toutes ces belles paroles, contenues dans son livre? Oui, et quelles écritures avaient tous les saints hommes de Dieu qui furent avant Moïse pour dire ce qu'ils apprenaient seulement de Dieu, et dire ce qu'ils avaient reçu de lui, choses qui, dans les âges suivants, vinrent à être écrites, imprimées et de nouveau connues par le même esprit qui les fit d'abord sortir, à eux et par eux. Ezra 1:2, où l'on peut voir comment le Seigneur Dieu éveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui dit « Le Seigneur Dieu des cieux m'a donné tous les royaumes de la terre. » Comment cet homme, que vous regardez comme un païen, n'ayant ni loi ni évangile, comment, dis-je, a-t-il pu dire de telles choses sans écriture? N'y avait-il pas ici une puissance et un esprit divins en lui, lui qui reconnut que le Seigneur Dieu des cieux et de la terre lui avait donné tous les royaumes de la terre, et qu'il devait bâtir à Dieu une maison en Judée, qui était le temple des Juifs? Il ne dit pas qu'il avait acquis tous ses royaumes par sa propre puissance, sa force ou sa vaillance, mais que le Seigneur Dieu des cieux les lui avait donnés. N'auriez-vous pas pensé que cet homme était fantasque, si vous aviez vécu en ces jours-là, et trop assuré pour parler ainsi, n'ayant pas d'écriture, alors qu'il tenait en captivité ceux qui professaient et possédaient l'écriture? Ezra 6:7, qui avait-il en Darius qui donna l'ordre de bâtir la maison de Dieu? Car ne regardez-vous pas Darius et Cyrus comme des païens, n'ayant ni loi écrite ni évangile, ainsi appelés? Qui avait-il en Artaxerxès, qui encouragea le prêtre du Seigneur? Lui qui dit à Ezra qu'il était le prêtre de la loi du Dieu des cieux, et qu'il devait enseigner la loi de Dieu au peuple, et établir des juges sur le peuple, des hommes qui connaissaient la loi de Dieu, et que ceux qui ne voudraient pas accomplir la loi de Dieu et celle du roi, qu'ils soient jugés. Ainsi ici le roi reconnut la loi de Dieu, et son ordre et sa loi étaient que la loi de Dieu devait être obéie. N'était-ce pas par une puissance divine et un principe divin en lui? Pourtant c'est avec des armes charnelles que les Juifs s'opposèrent aux chrétiens, et ceux qui aujourd'hui se servent des Écritures pour justifier la construction d'une vieille maison de messe, et qui invoquent la loi du roi et la loi de Dieu pour cela, ni la venue de Christ dans la chair, lui qui a mis fin au temple des Juifs et à la loi qui le soutenait, et a fait de son peuple son temple, comme le dit l'Écriture. Juge 13:20-23, où vous pouvez lire comment l'ange du Seigneur apparut à Manne, à sa femme, puis à tous deux, et comment Manne dit à sa femme, « Nous mourrons certainement car nous avons vu Dieu », mais sa femme lui dit, « Si le Seigneur avait voulu nous faire mourir, il n'aurait pas reçu de nos mains un holocauste et une offrande. » Il ne nous aurait pas montré toutes ces choses, ni ne nous aurait maintenant dit de telles choses, à savoir que nous aurions un fils. Remarquez maintenant quel sermon la femme de Manne lui prêcha. N'est-ce pas vous, protestants et papistes, qui l'auriez appelée une femme enseignante irrespectueuse, et qui auriez dit « Quoi, tu prêches à ton mari, va apprendre de ton mari à la maison, et quelle écriture avait-elle pour prêcher à son mari ?» Mais elle crut en une puissance divine, et la chose arriva selon ce que l'ange lui avait dit. Daniel 2, qui avait-il en Nebuchadnetsar, roi de Babylone, qui dit « En vérité, votre Dieu est un Dieu au-dessus de tous les dieux, et un Seigneur au-dessus de tous les rois, et un révélateur de secrets. Puisque tu as pu révéler ce secret, ne parla-t-il pas divinement, lui qui confessa le Dieu des cieux et plaça le vrai Dieu au-dessus du sien? » Pensez-vous que Nebuchadnetsar ait passé 7 ans à l'école, y apprenant les 7 arts libéraux, pour parler ainsi? Ou pensez-vous qu'il ait eu la loi ou l'évangile écrit pour dire cela, lorsqu'il confessait le Dieu des cieux et un Seigneur au-dessus de tous les rois, donc au-dessus de lui-même? Daniel 3:19-29, où nous lisons que Nebuchadnetsar s'approcha de l'ouverture de la fournaise ardente, dans laquelle il avait fait jeter les 3 jeunes hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, solidement liés dans leurs vêtements, la coiffure sur la tête, la fournaise ayant été chauffée 7 fois plus que d'ordinaire. Et le roi dit à son conseil, « N'avons-nous pas jeté 3 hommes liés dans le feu ? » Et ils dirent, « Oui au roi. » Et le roi dit, « Voici pourtant je vois 4 hommes marcher libres au milieu du feu, et ils n'ont aucun mal, et la forme du 4e ressemble au Fils de Dieu à le voir. » Et Nebuchadnetsar dit, « Au Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu très haut, sortez. » Alors ils sortirent, et alors les ducs, seigneurs et nobles, et les conseillers du roi vinrent voir ces hommes, sur le corps desquels le feu n'avait eu aucun pouvoir, pas un cheveu de leur tête n'avait été brûlé, leurs manteaux n'étaient pas altérés et l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Alors le roi parla et dit « Béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, qui a envoyé son ange pour délivrer ses serviteurs qui se confient en lui, et qui a changé l'ordre du roi, et livré leur corps, afin qu'ils ne servent ni n'adorent aucun dieu, si ce n'est leur propre Dieu. C'est pourquoi je rends un décret, que tout peuple, nation et langue, qui dira quelque blasphème contre le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, soit mis en pièces, et que sa maison soit réduite en fumier, parce qu'il n'y a aucun dieu qui puisse délivrer de cette manière. » Or, remarquez, n'était-ce pas un principe divin en Nebuchadnezzar qui le fit prononcer ces paroles, lui qui adorait des images et contraignait les autres à faire de même? Et pouvait-il reconnaître le Fils de Dieu, disant, « L'un ressemblait au Fils de Dieu, et confessait que ceux-ci étaient les serviteurs du Dieu très haut, et que nul ne devait dire du mal du Dieu des cieux, et louer ceux qui n'avaient pas changé de religion, et que nul ne pouvait sauver comme le Dieu des cieux, et que nul ne devait le blasphémer. » Pouvait-il dire ces choses sans une puissance divine, n'ayant ni loi écrite ni évangile, et étant regardé comme un païen? Comment aurait-il pu dire ces choses sans écriture? Que dites-vous de cela, vous professeurs, qui dites « Nous n'avons pas connu Dieu ou le Christ si l'Écriture ne nous l'a pas déclaré. » Et si cela s'était passé de votre temps, ne seriez-vous pas prêts à dire que c'était de la sorcellerie ou de la conjuration? Nebuchadnezzar n'a-t-il pas jugé ici tous vos docteurs astérisques qui ont parlé ainsi sans lettres ni écriture, alors que vous confessez ne le pouvoir sans lettre ni écriture. Astérisque commentaire de l'éditeur du site, un docteur, divine, était quelqu'un qui était allé à Oxford ou à Cambridge étudier la Bible en grec et en hébreu, les langues supposément divines. Lire la Bible dans les langues originales les rendait, disait-on, plus spirituelles, tellement plus spirituelles qu'on les appelait docteurs. Fox a complètement détruit la validité de cette prétention en rappelant aux gens que si lire et écrire en grec et en hébreu rendait quelqu'un divin, alors Pilate devait avoir été l'un des premiers docteurs, puisqu'il écrivit une inscription en hébreu, en grec et en latin disant « Jésus de Nazareth, roi des Juifs » et la plaça au-dessus de la croix de Jésus. Aujourd'hui encore, il existe dans le monde entier des collèges bibliques qui enseignent à leurs étudiants à lire le grec, l'hébreu et le latin, soi-disant afin qu'ils comprennent les Écritures, mais cela ne fait que prouver que le Saint-Esprit n'est pas dans ces collèges pour aider les étudiants à apprendre le sens de la Bible. Car le Saint-Esprit peut communiquer les sens et les compréhensions en toute langue à n'importe qui, même à ceux qui ne savent pas lire, « Je vous l'enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité. » Jean 15, 26. « Le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. » Jean 14, 26 dans Dan 4. « Voyez ici quelle grande chose Nebuchadnezzar eut dans son rêve, quelle prophétie, vision et révélation, et comment il prévit la chute de son propre empire, et comment il vit un veilleur, l'ange saint, qui descendit du ciel et abattit l'arbre qui était lui-même et laissa la souche en terre. » Et qu'il devait manger de l'herbe comme un bœuf pendant 7 ans, jusqu'à ce qu'il sache que le trésor domine sur les royaumes des hommes. Et ensuite, tandis que le roi se promenait dans un palais, une voix du ciel lui vint, disant, « Ton royaume, ô Nebuchadnezzar, va se retirer de toi. » Et lorsque les 7 années furent accomplies, il leva les yeux vers le ciel, et son intelligence lui fut rendue, et il rendit grâce au trésor et l'exalta pour toujours et à jamais, dont la domination, dit-il, est une domination éternelle, et dont le royaume subsiste de génération en génération, et tous les habitants de la terre sont réputés comme rien, et il agit selon sa volonté. Alors Nebuchadnezzar aima, magnifia et loua le roi des cieux, car toutes ses œuvres sont vraies, dit-il, et ses voies sont justes, et quant à ceux qui marchent dans l'orgueil, il est capable de les abaisser. Considérez donc quelle chose divine, noble et magnifique, ce païen prononça, lui qui n'avait ni loi écrite ni évangile, bien au-delà de vous qui avez vos écoles, la loi écrite et l'évangile. Daniel 5. Ici vous pouvez voir comment Belshazzar, un autre roi païen, fit un festin pour 1000 de ses seigneurs, et quand il fut troublé dans son esprit, sa femme lui dit qu'il y avait dans son royaume un homme qui avait en lui l'esprit du Dieu saint, à savoir Daniel, captif parmi les enfants d'Israël. Il le fit donc venir et lui dit, « Es-tu Daniel, j'ai entendu dire de toi que tu as en toi l'esprit du Dieu saint, et la lumière et l'intelligence. Si donc tu peux me lire l'Écriture, je te donnerai des dons et des récompenses, une chaîne d'or à ton cou, et tu seras le troisième gouverneur du royaume. » Daniel dit au roi, « Quant à tes récompenses, garde-les pour toi, et donne tes dons à un autre. Néanmoins, je lirai l'Écriture au roi et je l'interpréterai. » Ainsi Daniel dit au roi, « Tu t'es élevé au-dessus du Seigneur des cieux, et celui dans la main duquel est ton souffle. Men, c'est-à-dire, Dieu a compté ton royaume et y a mis fin. Tekel, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé trop léger. Pher, ton royaume est divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. » Ici vous pouvez voir qu'il y avait quelque chose qui amena Belshazzar, roi des Chaldéens, à se soumettre à l'interprétation de Daniel, bien qu'elle fût contre lui-même, et bien que Daniel fût captif parmi eux, car cette même nuit le roi fut tué, et les Mèdes prirent le royaume. Daniel 6. Voyez quel langage Darius tint au sujet de Dieu, bien qu'il fût un roi païen, lorsque le délateur dénonça Daniel au roi et fit qu'il fût jeté dans la fosse aux lions pour avoir prié son Dieu, et comment le Seigneur ferma la gueule des lions par ses anges, de sorte qu'ils ne lui firent aucun mal. Et comment le roi, venant de grand matin à la fosse, lui qui, dans une grande détresse d'esprit, n'avait pu trouver de repos cette nuit-là, cria d'une voix lamentable à Daniel et dit « Ô Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers continuellement a-t-il pu te délivrer des lions ?» Et comment, après cela, Darius écrivit à tous les peuples, nations et langues qui habitaient dans toutes les terres, « Mon ordre est que dans tous mes dominions on tremble et on craigne devant le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant ferma toujours, et son royaume ne faillira pas, sa puissance est éternelle jusqu'à la fin, c'est lui qui délivre et qui sauve, il fait des œuvres merveilleuses, étonnantes, au ciel et sur la terre. » Considérez maintenant, Jean, quel langage admirable ce roi païen prononça, et quelles paroles divines il proféra, et comment il confessa Dieu, son royaume et sa puissance, lui qui n'avait ni loi écrite ni évangile. Car quelle écriture avait-il pour dire ces paroles? Ne vous condamne-t-il pas, vous qui vous dites chrétien, vous qui dites que vous n'auriez pas su s'il y avait un Dieu ou non si l'écriture ne vous l'avait déclaré, ainsi, vous n'avez rien connu de la divinité, et dès lors, lui et sa divinité sont au-dessus de vos têtes. Acte 17-28, Paul dit que certains des poètes disaient « Nous sommes aussi de sa race, car en lui nous vivons, nous nous mouvons et nous avons notre être. » Ainsi donc, les poètes n'avaient-ils pas le sens du Dieu vivant, eux qui disaient qu'ils étaient de sa race et qu'ils tenaient leur être de lui. Or, comment pouvaient-ils dire ces choses, et d'autres semblables, eux qui n'étaient que des païens sans écriture? Romains 1-19, où l'apôtre dit aux Romains, qui étaient païens, « Ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste en eux, car Dieu le leur a manifesté. » Car ces choses invisibles, c'est-à-dire sa puissance éternelle et sa divinité, se voient puisqu'elles se comprennent par les œuvres de la création du monde, de sorte qu'ils sont inexcusables parce qu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Considérez maintenant, n'y avait-il pas ici quelque chose de Dieu en ces païens, qui leur enseigna à connaître Dieu, bien qu'ils ne le glorifiassent pas comme Dieu, bien qu'ils n'eussent ni lettre écrite ni évangile écrit? Et l'apôtre ne met-il pas en avant ce qui est de Dieu chez les gentils pour juger les juifs, lorsqu'il dit au deuxième chapitre, « N'est pas juif celui qu'il est au dehors, et la circoncision n'est pas celle qui est au dehors dans la chair, mais est juif celui qu'il est intérieurement, et la circoncision est celle du cœur, qui consiste dans l'esprit et non dans la lettre, et dont la louange ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Car les juifs, ayant la lettre et la circoncision, transgressaient la loi, et ainsi les gentils, faisant les choses contenues dans la loi, rendait non-professeurs ceux qui professaient extérieurement la loi et la violaient, et la circoncision devenait incirconcision. Ainsi ceux qui, par nature, par ce qui est de Dieu en eux, gardaient la loi, jugent ceux qui ont la loi écrite au dehors et l'évangile écrit au dehors aussi, et pourtant ne l'observent pas mais le violent. Ainsi ici ceux qui obéissent à l'Esprit de Dieu sont justifiés, et ceux qui sont des professeurs ceux qui parlent des choses de Dieu et attristent l'Esprit sont condamnés. Matthieu 27-19, qui avait-il en la femme de Pilate qui la fit charger son mari, de ne rien avoir à faire avec la condamnation de ce juste, c'est-à-dire le Christ, car elle en avait été fort troublée durant son sommeil, et qu'est-ce qui a convaincu, et qui convainc, le monde de péché, de justice et de jugement? Et qu'est-ce qui fit trembler Félix, lorsque Paul raisonnait avec lui de tempérance, de justice et du jugement à venir? Et qu'est-ce qui les convainquit de leur sorcellerie, et de leurs enchantements mentionnés dans l'Apocalypse, bien qu'ils ne se repentissent pas? Et qu'est-ce qui amène chacun à rendre compte de ses paroles et de ses actes, qu'ils soient bons ou mauvais, puisque Dieu jugera le monde en justice par l'homme Christ Jésus selon l'Évangile, qui est la puissance de Dieu? Cela n'implique-t-il pas qu'il y a quelque chose de la puissance de Dieu en chaque homme, puisqu'ils doivent être jugés selon la puissance divine de Dieu dans l'Évangile? Qu'est-ce qui troubla Assuérus pendant la nuit, au point qu'il ne pouvait dormir, si bien qu'il demanda qu'on lui apportât le registre des chroniques, et comme on les lisait devant le roi, il se souvint du grand service que Mardochée le Juif lui avait rendu, par quoi lui et toute la nation juive, alors en captivité, furent préservés de la destruction qu'Haman avait méchamment tramée contre eux. Acte 10-6-22, nous lisons qu'il y avait un certain Corneille, centurion, c'est-à-dire capitaine d'une troupe de soldats sous les Romains, et comment bien qu'il fût dit dévot et craignant Dieu avec toute sa maison, faisant beaucoup d'aumônes au peuple et priant Dieu toujours, l'ange du Seigneur lui apparut et lui dit que ses prières et ses aumônes étaient montées en souvenir devant Dieu, et qu'il devait envoyer chercher Pierre à Joppé, qui lui dirait ce qu'il devait faire, et lorsque ses serviteurs vinrent à Pierre chez Simon le tanneur. A été averti par un ange de t'envoyer chercher dans sa maison, afin d'entendre de toi des paroles. Remarquez maintenant, Comment Corneille et ses serviteurs pouvaient-ils dire ces paroles parlant de craindre Dieu, ou de savoir qu'il y a un Dieu, et d'un ange, eux qui n'avaient ni la lettre de la loi ni celle de l'Évangile, comme vous qui vous appelez chrétiens, disant, nous n'aurions pas su qu'il y avait un Dieu ou un Christ si l'Écriture ne nous l'avait déclaré. Quelles règles Corneille, ou les autres mentionnées plus haut, suivirent-ils pour dire et faire de telles choses célestes, eux qui n'avaient pas de loi ou d'Évangile écrit pour les guider? Ne regardez-vous pas Corneille comme un païen? Lisez les Écritures et voyez ce qui est dit de lui, et ne dites-vous pas la même chose de ceux qui n'ont pas la loi ou l'Évangile écrit. Mais voyez ce que Pierre dit à Corneille, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais dans toute nation, celui qui craint Dieu et pratique la justice lui est agréable. Actes 10, 34-35 Ainsi, les Juifs pouvaient autrefois penser que le Seigneur n'avait égard qu'à eux, comme les professeurs le font aujourd'hui. Mais voyez si ce par quoi Corneille marchait ce qui le gardait, lui et sa maison, dans la crainte de Dieu ne vous condamne pas, vous qui dites que l'Écriture est votre règle, et qui ne marchez ni selon votre règle de loi ni selon celle de l'Évangile, comme vous l'appelez. Et Corneille dit, « Nous sommes tous ici présents devant Dieu pour entendre tout ce qui t'a été ordonné de la part de Dieu. » Voyons donc ici que Corneille avait la foi au Dieu vivant, bien qu'il n'eût ni loi écrite ni évangile, et qu'il ne fût pas juif mais païen. Et il croyait que ce que Pierre lui disait venait de Dieu, bien qu'il n'eût pas la Bible extérieure pour le prouver, comme nous l'avons maintenant, bien que nous ne soyons pas contre le fait de vérifier les paroles des hommes par l'Écriture. Mais vous dites que vous n'auriez pas su qu'il y avait Dieu, Esprit et Christ sans les Écritures, et vous mettez l'Écriture au-dessus de l'Esprit, tandis que l'Esprit de Dieu. C'était l'année 1456, avant que les premières Bibles soient imprimées. Et les Juifs n'ont pas connu Christ par les Écritures, ni les apôtres, ni les prophètes du Seigneur, car s'ils l'avaient connu par l'Écriture, ils ne l'auraient certainement pas persécuté, ni persécuté ceux-ci. Ainsi Christ, les prophètes, les apôtres et ses Écritures sont connus par l'Esprit de Christ, qui est le Saint-Esprit, lequel conduit dans toute la vérité. 1 Samuel 6:3, voyez comment ces prêtres païens reconnurent le Seigneur Dieu, et comment ils conseillèrent au peuple d'offrir au Seigneur une offrande pour le délit, afin d'apaiser sa colère qui s'est déchaînée contre eux et leur dieu dragon pour avoir retenu et emporté l'arche du Seigneur, comme vous pouvez le voir dans le chapitre précédent, pour la destruction de leur dieu et de milliers de ses adorateurs, disant, « En agissant ainsi vous rendrez gloire au dieu d'Israël, peut-être allégera-t-il sa main de dessus vous, et de dessus. Ne laissèrent-ils pas aller le peuple, et ils s'en allèrent, maintenant donc faites un chariot neuf. » Remarquez, ces païens n'avaient ni loi écrite ni évangile, et vous voyez qu'ils reconnaissaient le Dieu vivant, quant à sa puissance, sa justice et sa miséricorde, en les visitant de jugements préalables, et en les retranchant par tels et tels moyens. Tout cela peut vous juger, vous protestants et papistes, qui dites que vous n'auriez pas su qu'il y a un Dieu sans loi écrite et évangile. 1 Rois 5:5-7 Salomon envoya Hiram, roi de Tyr, pour du bois et du cèdre pour la construction de la maison du Seigneur. Et au verset 7, il est dit qu'Hiram, quand il l'entendit, se réjouit grandement et dit, « Béni soit le Seigneur en ce jour, qui a donné à David un fils sage sur ce grand peuple. » Dans 2 Chroniques 2:8-12, nous lisons que lorsque Salomon envoya à Hiram pour des cèdres, Hiram écrivit à Salomon en réponse, verset 11-12, « Parce que le Seigneur a aimé son peuple, il t'a établi roi sur eux. » Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui a fait le ciel et la terre, qui a donné au roi David un fils sage, doué de prudence et d'intelligence, afin qu'il bâtisse une maison pour le Seigneur. Maintenant remarquez, ne considérez-vous pas ce Hiram comme un roi païen, qui n'avait ni loi écrite ni évangile. Et pourtant il en vint à comprendre qu'il y avait un Seigneur Dieu dans le ciel. Et béni le Seigneur, ne seriez-vous pas, vous chrétiens, prêts à dire qu'il suivait les imaginations de son propre cœur, et que ni lui ni personne d'autre n'aurait su s'il y a un Dieu ou un Christ, si l'Écriture ne vous l'avait déclaré, et pourtant ici vous voyez le contraire, à votre propre confusion. 2 Chroniques 35:20-22, où l'on peut lire les paroles de Necho, roi d'Égypte, à Josia, roi de Juda, qui sortit pour combattre Necho, lequel ne venait pas combattre contre lui, mais contre Carchemish, disant, « Qu'ai-je à faire avec toi, roi de Juda? Je ne viens pas contre toi aujourd'hui, mais contre la maison avec laquelle je suis en guerre, car Dieu m'a commandé de me hâter. Cesse de t'opposer à Dieu, qui est avec moi, de peur qu'il ne te détruise. » Néanmoins, Josia n'écouta pas les paroles du roi, mais combattit contre lui, et Josia fut tué dans la bataille. Maintenant remarquez, vous considérez le roi d'Égypte comme un païen, mais ici vous pouvez voir qu'il était prophète, car ses paroles s'accomplirent au sujet de Josia, lesquelles il tenait de la bouche de Dieu, verset 22, lui qui n'avait ni loi écrite ni évangile. Et pourtant comme vous auriez été prompt à le regarder comme un faux prophète, suivant les fantaisies de son propre cerveau, alors que vous pouvez voir qu'il y avait en lui quelque chose de divin, plus que vous ne voulez l'admettre, ainsi que chez bien d'autres, qui professent les paroles des Écritures sans la vie, car vous dites que vous n'auriez pas connu la volonté de Dieu si l'Écriture ne vous l'avait déclarée. 1 Rois 10:1-9 et 2 Chroniques 9:1-7 Là vous pouvez voir comment la reine de Saba vint des extrémités de la terre, comme Christ l'a dit, pour entendre la sagesse de Salomon, Matthieu 12, 42. Car elle avait beaucoup entendu parler de lui dans son pays, et du nom du Seigneur, et quand elle vint et vit tout, elle dit au roi, « C'était un rapport véridique que j'ai entendu dans mon pays au sujet de tes actes et de ta sagesse. Toutefois je ne croyais pas ces paroles jusqu'à ce que je sois venu. Heureux sont tes hommes, heureux sont ces tes serviteurs, qui se tiennent continuellement devant toi et entendent ta sagesse. Béni soit le Seigneur ton Dieu, qui a pris plaisir en toi pour te placer sur le trône d'Israël, parce que le Seigneur a aimé Israël pour toujours, il t'a fait roi pour exercer le jugement et la justice. Maintenant remarquez, vous tous qui vous appelez chrétiens, qui dites que vous n'auriez pas su qu'il y a eu un Dieu ou un Christ, si l'Écriture ne vous les avait pas déclarés, quelle Écriture avait cette femme, venue de loin, qui n'avait ni loi écrite ni évangile ? Et pourtant elle entendit parler du nom du Seigneur et de la renommée de Salomon, et bénit le Seigneur Dieu, et dit qu'il aimait Israël, et avait fait Salomon roi pour leur rendre équité et justice. Comment donc pouvait-elle parler de justice et d'équité, et du Seigneur Dieu et de son nom, n'ayant ni loi écrite ni évangile, n'auriez-vous pas dit qu'elle était une femme insensée, et qu'elle était devenue folle en quittant son pays ? Mais n'était-ce pas un principe divin qui la poussa à venir et à voir, par lequel elle fut satisfaite et rafraîchie, bénissant le Seigneur Dieu ? Et elle donna à Salomon en abondance des choses choisies, montrant son amour pour Dieu et pour son peuple. Et elle fit cela par ce principe divin et cette puissance de Dieu en elle, car Dieu est esprit, et lui et ses choses sont connues par l'esprit. Et ainsi elle vous juge tous par une puissance et un esprit divin en elle, elle qui n'avait pas la lettre de l'Écriture pour guide extérieur, comme vous l'avez, sans laquelle, comme vous le dites, vous n'auriez pas su qu'il y avait un Dieu ou un Seigneur, et pourtant vous voyez ici qu'elle pouvait le dire sans cela. N'auriez-vous pas dit qu'elle était une femme prédicatrice, venue prêcher au roi ? Gênesis 39, 1-4, nous lisons comment Joseph fut vendu par les Ismaélites en Égypte à Potiphar, capitaine de la garde de Pharaon, un Égyptien, et son maître voyant que le Seigneur était avec lui, et comment Dieu faisait prospérer tout ce qu'il avait en main, au point que Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, de sorte qu'il le fit gouverneur de toute sa maison. Considérez maintenant que ce Potiphar était un païen, et pourtant il fut rendu sensible au fait que Dieu était avec Joseph, et le bénit à cause de Joseph, et ainsi, par cette vue qu'il avait de Dieu, Joseph trouva grâce auprès de son maître, et il pouvait parler de Dieu, et tout cela sans loi écrite ni évangile. Considérez, dis-je, cette vue de Potiphar n'était-elle pas bien au-delà de tous vos chrétiens aveugles, qui disent « Vous n'auriez pas su qu'il y a un Dieu ou un Christ, si la lettre de l'Écriture ne vous l'avait déclaré, et ainsi n'êtes-vous pas plus païen que cet homme ?» Observez encore, l'une des causes de son amour pour Joseph fut qu'il voyait que Dieu était avec lui, et c'est pourquoi il l'aimait, c'est pourquoi vous nous haïssez d'autant plus, puisque beaucoup d'entre vous ne peuvent s'empêcher de sentir que le Seigneur est avec nous. Le geôlier, là en Égypte, à qui Joseph fut confié comme prisonnier, ne vit-il pas que Dieu était avec Joseph, et que Dieu faisait prospérer tout ce qu'il faisait, et sa vue n'était-elle pas au-delà de vous tous, prêtres, qui dites que vous n'avez pas connu Dieu, à moins que l'Écriture ne vous l'ait déclaré ? Et n'êtes-vous pas aussi obscurs que tous vos compagnons grands prêtres, qui ne purent voir Christ lorsqu'il fut venu, mais le persécutèrent, et quelle Écriture avait le geôlier ? Ou quelle règle pour voir que Dieu était avec Joseph, et que Dieu faisait prospérer tout ce qu'il faisait ? N'était-ce pas quelque chose de la lumière divine, tant en Joseph qu'en le geôlier, comme en témoigne l'Écriture ? Gênesis 40, 1-22, nous lisons comment Pharaon, mécontent de son échanson et de son panetier, les fit mettre en prison, où Joseph était emprisonné, et comment ils déclarèrent à Joseph chacun son rêve qu'ils avaient rêvé là. N'y avait-il pas quelque chose, dans leurs deux rêves, qui s'accomplit selon l'interprétation de Joseph ? Et ici les serviteurs de Pharaon vous jugent, vous chrétiens, qui n'admettez ni prophétie ni révélation. Gênesis 41, 1-37, 38-41, lorsque Joseph eut interprété le rêve de Pharaon concernant les sept vaches grasses et les sept vaches maigres, Pharaon dit à Joseph, « Où trouverons-nous un homme tel que celui-ci dont tu parles, en qui est l'Esprit de Dieu ? Puisque Dieu t'a montré tout cela, et qu'il n'y a personne d'intelligente et de sage comme toi, tu seras donc sur ma maison. » Ainsi vous tous, chrétiens, pouvez voir ici que Pharaon, roi païen, reconnaît Dieu, et que l'Esprit du Seigneur était en Joseph, et comment le roi confessa et reconnut que Dieu avait montré à Joseph son rêve, et pourtant ce Pharaon n'avait ni loi écrite ni évangile pour l'amener à confesser Dieu, ni pour savoir qu'il y avait un Dieu, et pourtant il pouvait le confesser et dire « L'Esprit de Dieu était en Joseph ». Ainsi donc, ce qui l'amena à confesser et à reconnaître le Dieu vivant, sans la lettre de la loi ni de l'évangile, vous juge, vous qui dites, vous ne savez pas qu'il y a eu un Dieu ou un Christ, si vous n'avez pas la lettre pour vous le déclarer. Jonas 1, où vous pouvez lire comment le maître du navire parti de Joppé, à destination de Tarsis, dit à Jonas, passager à bord, lorsque le navire était dans une tempête près de périr, « Que veux-tu dire, dormeur, lève-toi et invoque ton Dieu, afin que Dieu pense à nous, pour que nous ne périssions pas. » Et lorsqu'ils tirèrent au sort pour savoir à cause de qui ce mal leur était survenu, le sort tomba sur Jonas, à qui ils dirent « Quelle est ton occupation et d'où viens-tu ? » Il répondit qu'il était hébreu et craignait le Seigneur, le Dieu du ciel, qui a fait la mer et la terre ferme. Alors les hommes furent saisis d'une grande crainte et lui dirent « Pourquoi tu fais cela ?» Car les hommes savaient qu'il avait fui loin de la présence du Seigneur. Maintenant, avant de jeter Jonas par-dessus bord dans la mer, comme il le leur avait conseillé, ils prièrent le Seigneur, disant « Nous te supplions, ô Seigneur, nous te supplions, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne fais pas retomber sur nous le sang innocent, car toi, ô Seigneur, tu as fait ce qu'il t'a plu. » Alors ils le jetèrent dans la mer, et la mer cessa de s'agiter. Puis les hommes craignirent le Seigneur d'une grande crainte, offrirent un sacrifice au Seigneur et firent des vœux au Seigneur. « Maintenant écoutez et voyez cela, vous tous, appelés chrétiens, qui dites que vous n'auriez jamais su qu'il y a un Seigneur ou un Christ si l'Écriture ne vous l'avait déclaré. Ces marins n'étaient-ils pas des païens? Ils n'avaient ni loi écrite ni évangile, et pourtant ils confessèrent que le Seigneur faisait ce qui lui plaisait, craignant Dieu, lui offrant des sacrifices et lui faisant des vœux, criant au Seigneur, demandant qu'il ne leur imputât pas le sang innocent et qu'ils ne périssent pas. Et ils demandèrent à Jonas d'invoquer le Seigneur. N'y avait-il pas quelque chose, chez ces païens au-dessus de vous-même, qui n'avait pas l'Écriture et pourtant reconnaissait Dieu? Alors que vous dites que vous n'auriez pas su qu'il y a un Dieu si les Écritures ne vous l'avaient déclaré, en vérité, vous ne le connaissez même pas maintenant, bien que vous ayez les Écritures, et vous n'avez pas l'Esprit comme il l'avait, celui qui a produit l'Écriture par eux ni n'avait entendu sa voix, et pourtant vous prétendez être des prédicateurs de Dieu et de Christ, mais vous ne connaissez ni l'un ni l'autre, vous êtes des prédicateurs. Jonas 3, nous y lisons que le Seigneur commanda à Jonas une seconde fois de se lever et d'aller à Ninive, cette grande ville, et de les exhorter à se repentir. Et Jonas fit une journée de marche dans la ville et cria, « Encore 40 jours, et Ninive sera détruite. » Ainsi le peuple de Ninive crut Dieu, proclama un jeûne et se revêtit de sacs, du plus grand jusqu'au plus petit. Et la nouvelle parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit proclamer dans Ninive, par décret du roi et de ses nobles, disant « Que ni homme ni bête, gros ou petit bétail, ne goûte rien, qu'il ne pèse pas et ne boive pas d'eau, mais que l'homme et la bête soient couverts de sacs et crient fortement à Dieu, oui que chacun se détourne de sa mauvaise voie et de la violence qui est dans ses mains, qui sait si Dieu ne se détournera pas et ne se repentira pas. » Et Dieu vit leurs œuvres, qu'ils se détournaient de leur mauvaise voie, et Dieu se repentit du mal qu'il avait dit qu'il leur ferait, et il ne le fit pas, ce qui fit dire à Christ que les hommes de Ninive se lèveraient contre cette génération présente, qui avait les Écritures mais ne se repentit pas à sa prédication, tandis que se repentirent à la prédication de Jonas, et voici, il y a ici plus grand que Jonas. Matthieu 12, 41. Considérez donc maintenant, vous qui êtes appelés chrétiens, comment Ninive se repentit et Dieu les épargna, et le roi ne persécuta pas Jonas comme un faux prophète, mais écouta les paroles de Jonas, crut, cria au Seigneur, Jonas et se détourna du mal de ses voies, de sorte que Dieu eut miséricorde d'eux. N'y avait-il pas quelque chose de Dieu, chez ces païens, qui les fit crier vers Dieu, se tourner vers Dieu et croire en Dieu, ce que vous regardez, dis-je, comme des païens qui n'avaient pas la lettre des Écritures, ni loi écrite ni évangile, et qui étaient plus de 20 000 personnes, comme l'Écriture le dit, qui ne savaient discerner leur main droite de leur main gauche, et pourtant cela purent parler de Dieu et crier à lui à la prédication de Jonas. Et pourtant vous ne pouvez pas dire, dites-vous, s'il y a un Dieu ou un Christ, à moins que l'Écriture ne vous le déclare. Et si l'un des serviteurs de Dieu vient et vous appelle à vous repentir, dans vos ruses à quelque moment que ce soit, vous le lapidez, ou vous le jetez en prison, ou vous le battez, ou le fouettez, comme un vagabond. Tandis que Ninive ne fit pas cela à Jonas, mais comme Christ l'a dit, ils se lèveront au jugement contre cette génération méchante. Matthieu 12, 41. C'est cela, dis-je, que vous faites, au lieu de vous détourner de votre méchanceté, du mal de vos voies et de votre faux culte. De sorte que je dis encore une fois, Ninive se lèvera au jugement contre vous, aveugle professeur, qui êtes si plein de la lettre et si vide de la vie et de l'esprit qui l'a produite, comme l'étaient les pharisiens, et ignorant de la connaissance de Dieu, étant ravis et égarés loin de l'esprit. 2. Où nous lisons comment Josué envoya deux hommes hors de Shittim pour espionner secrètement, disant, « Allez et considérez le pays, même Jéricho. » Ils allèrent et logèrent chez une certaine Rahab, une prostituée, et quand le roi entendit qu'il était dans sa maison, il lui envoya ordre de les faire sortir. Mais au lieu de cela, elle alla les cacher, puis prit soin de les renvoyer en secret, leur disant, « Je sais que le Seigneur vous a donné le pays, et que la terreur que vous inspirez est tombée sur nous, et que tous les... » Remarquez, voici une femme, une prostituée, qui n'avait pas la lettre d'une loi ou d'un évangile écrit, étant païenne à votre compte, et pourtant elle confessa au Seigneur qu'il était Dieu dans le ciel au-dessus de tout. Or, n'était-ce pas là l'effet d'une puissance et d'un principe divin? Sa foi ne l'empêcha-t-elle pas de périr avec les autres, comme cela est rapporté par le Saint-Esprit, en Hébreux 11, 31? Et cette prostituée, ne vous juge-t-elle pas, vous qui avez la lettre de la loi et de l'Évangile, et qui pourtant n'auriez pas su qu'il y a un Dieu et un Christ si les Écritures ne vous l'avaient déclaré, et qui donc ne pouvait pas confesser Dieu dans le ciel en haut et sur la terre en bas, comme cette femme le fit sans la lettre. Et il vaut la peine de remarquer qu'elle, comme prophétesse le prévit, et encouragea ainsi le peuple de Dieu, disant, « Le Seigneur vous a donné le pays, et cela, dis-je, elle le dit bien avant qu'il leur fût donné, à savoir aux enfants d'Israël. » Et elle dit cela sans écriture pour le dire, mais par la foi. Mais vous, qui n'avez ni la foi ni l'Esprit de Dieu pour vous guider, puisque la prophétie a, comme vous le dites, cessé, vous ne supportez pas que des femmes prêchent. Mais voyez quel hardi sermon elle prêcha aux espions, et pourtant vous ne pouvez souffrir la prédication des femmes. Et si vous croyez cela, pourquoi avez-vous consigné sa prédication ainsi que celle de Hulda, et celle de Marie-Madeleine annonçant aux apôtres la résurrection de Christ, et la prédication de Marie et d'Elisabeth, et celle de la vieille Anne dans le temple, et celle de Dorcas, qui était une femme disciple de Christ ? 2 Rois 5, nous lisons comment Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, vint à Élisée pour être guéri de sa lèpre, et le prophète lui envoya dire d'aller se laver 7 fois dans le Jourdain, et il serait guéri, ce Jourdain signifiant le fleuve du jugement. Mais Naaman fut vivement contrarié que le prophète ne sortît pas vers lui en personne, comme il s'attendait qu'il le ferait, et qu'il n'invoqua pas le nom du Seigneur son Dieu, et ne passa pas sa main sur l'endroit, et ainsi ne le rétablit pas. Mais son serviteur s'approcha et lui dit, « Mon père, si le prophète t'avait ordonné quelque grande chose, ne l'aurais-tu pas faite ? Combien plus alors, quand il t'a dit, « Lave-toi et sois pur », alors il alla se laver 7 fois et fut guéri, et il retourna vers l'homme de Dieu et dit, « Voici, maintenant je sais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, sinon en Israël, et qu'à partir de là il n'offrirait de sacrifice à aucun autre Dieu mais au Seigneur. » Et il demanda à Élisée que lorsqu'il irait avec son maître dans la maison de Rimmon et s'y prosternerait, il demandait au Seigneur de lui pardonner en cela. Remarquez maintenant, quelle écriture avait cet homme pour confesser Dieu et dire toutes ces choses, avait-il loi ou évangile ? N'y avait-il pas en lui un principe de Dieu qui le porta à confesser Dieu, bien qu'il n'eût pas d'écriture ? Beaucoup de serviteurs ne sont-ils pas forcés de faire cela parmi ceux qu'on appelle chrétiens, comme Naaman le fut, à savoir d'aller à un culte avec leur maître contrairement à la pensée du Seigneur et au principe de Dieu en eux ? Ainsi je dis, ne forcez-vous pas beaucoup de vos serviteurs à faire ce qui est contraire à Dieu, en suivant vos voies, votre religion et votre culte, que vous avez fait vous-même et établi dans vos maisons à clocher, vos lieux de culte. Et pensez-vous que beaucoup de vos serviteurs et de vos enfants ne sont pas troublés et ne crient pas miséricorde au Seigneur, comme Naaman le fit, eux qui sont forcés, contrairement à l'Esprit de Dieu et à ses principes en eux, d'aller à votre culte, que ni Dieu ni le Seigneur Jésus n'ont jamais institué. 2 Rois 6-8-23, nous lisons que le roi de Syrie fit la guerre à Israël, et comment il prit conseil auprès de ses serviteurs, et ce conseil fut révélé au roi d'Israël par le prophète Élisée, par quoi le roi fut bien des fois préservé du danger, ce qui tourmenta fortement le roi de Syrie, car il pensa que l'un de ses conseillers pouvait être faux et révéler ses conseils, car, dit-il, ne me ferez-vous pas savoir lequel de nous est pour le roi d'Israël ? Et l'un de ses serviteurs dit, « Aucun, mon Seigneur, ô roi, mais Élisée, le prophète qui est en Israël, dit au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Là-dessus le roi envoya une grande troupe pour aller chercher Élisée hors de Dothan, une ville d'Israël où il comprit qu'il se trouvait, et pour ce faire, ils encerclèrent la ville tout autour avec des chevaux et des chars, et Élisée sortit vers eux les rencontra et pria le Seigneur de frapper la troupe d'aveuglement, et ainsi le Seigneur le fit. Puis Élisée leur dit, « Ce n'est pas le chemin et ce n'est pas la ville, suivez-moi, et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. » Mais il les mena jusqu'aux portes de Samarie, et ayant de nouveau prié le Seigneur d'ouvrir leurs yeux, ce qu'il fit, ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie, et lorsque le roi d'Israël voulut les frapper, Élisée ne le lui permit pas, mais lui dit de mettre devant du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et boivent et retournent à leur maître. Ainsi le roi d'Israël leur prépara une grande provision, puis les renvoya en paix, de sorte que les bandes de Syrie ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Maintenant remarquez, qu'est-ce donc chez le serviteur du roi de Syrie, qui n'avait ni loi écrite ni évangile, qui lui permit d'informer son maître que c'était le prophète Élisée qui, de temps en temps, disait ses paroles au roi d'Israël et révélait ses conseils, même ce que son maître disait en privé dans sa chambre à coucher. Ne seriez-vous pas, vous papistes et protestants qui dites, vous n'auriez pas su s'il y a un Dieu ou un Christ, si vous n'aviez pas eu l'Écriture pour vous le déclarer, ne seriez-vous pas, dis-je, prêt à dire que le prophète et les serviteurs du roi de Syrie étaient des sorciers, l'un parce qu'il le disait au roi d'Israël, et l'autre parce qu'il pouvait en informer le roi de Syrie ? Et si cela avait été en votre pouvoir, si une telle chose avait existé de votre temps, n'auriez-vous pas été aussi prêt à les mettre tous deux à mort ? Néhémie 6, 16, ici vous pouvez percevoir ce que tous les ennemis des Juifs, tant païens que certains Juifs qui s'allièrent contre eux pendant qu'ils s'employaient à bâtir les murs de Jérusalem, ayant obtenu la permission de Darius, et lorsque Sambala et d'autres, leurs ennemis, entendirent qu'ils avaient achevé le mur, il est dit que leur courage leur manqua, et qu'ils eurent peur, et leurs ennemis s'aperçurent que l'ouvrage des Juifs était de Dieu. Maintenant, remarquez, vous tous qui vous appelez docteurs, et dites que vous n'auriez pas su qu'il y a eu un Dieu ou un Christ, si vous n'aviez pas eu l'Écriture pour vous le déclarer, comment ces païens, qui étaient de véritables ennemis des Juifs, perçurent que cet ouvrage était de Dieu, eux qui n'avaient ni loi écrite ni évangile. Pouvez-vous croire ceci, qu'ils aient pu percevoir que cet ouvrage était de Dieu, n'ayant ni loi écrite ni évangile, mais suivant d'autres dieux de leur propre fabrication? Qu'en pensez-vous, avec toute votre sagesse et vos 7 années d'études? N'y avait-il pas quelque chose de Dieu, chez ces païens, qui les convainquit, au point qu'ils furent forcés de reconnaître que l'ouvrage était de Dieu, ce qui les frappa de crainte, si bien que leur courage leur manqua? Et ici ces païens, ne vous jugent-ils pas, vous chrétiens de profession qui n'avez ni loi écrite ni évangile, vous qui avez l'une et l'autre, puisqu'ils pouvaient parler de Dieu sans cela? Ne sont-ils pas les plus grands païens de tous, ceux qui ont à la fois loi écrite et évangile, et pourtant ni que des révélations soient possibles aujourd'hui, ce qui manifeste clairement que leur connaissance n'est pas la connaissance de Christ, car nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils le révèle. Luc 10, 22. Et ainsi ceux qui ont la lettre de l'Écriture et ni les révélations, par lesquelles Dieu et Christ sont connus, jugent pourtant tous les autres qui n'ont pas la lettre de l'Écriture, comme étant des païens. Oui, et ils jugent beaucoup d'entre eux, qu'ils ont baptisés et appelés chrétiens comme n'ayant pas l'Esprit de Dieu, bien qu'ils aient été baptisés par eux-mêmes, et déclarés héritiers du royaume, et qu'ils fussent enfants de parents croyants. Or, les païens qui connaissaient Dieu, le connaissaient par révélation, eux qui n'avaient pas la lettre de l'Écriture. Et vous, qui avez l'Écriture et niez la révélation, vous niez ce qui a donné aux autres, et devrez vous donner, la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ. Ainsi donc, pour conclure pour l'instant, vous pouvez voir clairement comment Dieu n'a pas, comme l'a dit l'apôtre, laissé de témoigner de lui-même, Actes 14, 17, mais ce qui peut être connu de Dieu est manifeste dans l'homme, Romains 1, 19, même chez les païens aussi bien que chez tous les hommes saints et toutes les femmes saints dans les Écritures, comme on peut le lire et le voir dans les Écritures de vérité, que nous reconnaissons et tenons en haute estime, ainsi que tous les hommes saints et les femmes saintes de Dieu, les prophètes. Car les saints hommes de Dieu ont parlé, étant poussés par le Saint-Esprit, comme ils l'apprenaient de Dieu, ce que Christ est venu accomplir, et ses disciples, ses suiveurs, et tout son peuple, qui reçoivent Christ, reçoivent celui qui les accomplit et qui leur ouvre l'Écriture par le Saint-Esprit, qui les conduit dans toute la vérité qui s'y trouve. George Fox à tous les croyants du monde chrétien aussi aux Juifs et aux Turcs dans le monde entier. Afin qu'ils puissent voir qui sont les vrais adorateurs de Dieu, que Dieu cherche, et en quoi il est adoré. Une exhortation à le lire de bout en bout, afin qu'ils puissent voir tout ce qu'ils ont tous attristé, irrité, éteint, et tout ce contre quoi ils ont marché avec mépris, se sont rebellés et ont rué, et contre quoi ils se sont bouchés les oreilles et ont fermé les yeux, afin qu'ils puissent tous revenir à nouveau se tourner au-dedans et voir ce qu'ils ont professé sans le posséder, afin qu'ils en viennent à être les véritables possesseurs de la vérité, et de véritables adorateurs dans l'esprit du Dieu vrai et vivant, qui est esprit, c'est là le culte parfait. Par George Fox. Femme de Samarie dit à Christ, nos pères ont adoré Dieu sur cette montagne, qui était la montagne où se trouvait le puits de Jacob, et dit-elle encore, vous dites que c'est à Jérusalem qu'est le lieu où les hommes doivent adorer, mais Jésus lui dit, femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des Juifs, mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs. N'en remarquez ceci, tous les hommes et toutes les femmes qu'on appelle chrétiens, ou juifs, ou turcs, ou autres, et voyez si vous savez ce que vous adorez, car il y a dans le monde beaucoup de cultes faits et établis par les hommes, et ainsi hommes et femmes adorent ce qu'ils ne connaissent pas, eux qui n'adorent pas Dieu en esprit en vérité comme Christ l'a dit. Vous pouvez voir qu'il y avait un culte sur la montagne où se trouvait le puits de Jacob, et qu'il y avait aussi un culte à Jérusalem au temple, établi bien des années après que Jacob mourut en Égypte. Et dans les Actes il est dit qu'il y avait à Jérusalem, venu de toutes les nations sous le ciel, ceux qui adoraient à Jérusalem au temps de la Pentecôte, beaucoup de personnes de nombreuses langues et de nombreux idiomes étrangers, et ils furent émerveillés des apôtres qui prêchaient Christ, Actes 2, 5, 12. Or dans Jean 4, vous pouvez voir comment Jésus-Christ abolit le culte sur la montagne où se trouvait le puits de Jacob, où les ancêtres adoraient, et abolit aussi le culte à Jérusalem, où les pères des Juifs adoraient, et où ils venaient d'autres contrées pour adorer. Et s'il ne le faisait pas, le Seigneur répandait sur eux ses fléaux et ses jugements, comme en Zacharie 14. Maintenant, quand Christ abolit ces deux cultes, sur la montagne où se trouvait le puits de Jacob et à Jérusalem, il établit un autre culte en esprit et en vérité, et dit : si il est clair ici que ce n'est ni sur la montagne ni à Jérusalem que le Père est adoré, car Christ Jésus a aboli ces cultes, oui, même celui de Jérusalem qui avait jadis été commandé par Dieu, et donc ce que Dieu n'a jamais commandé ne peuvent subsister. Et les paroles de Christ sont « Mais l'heure vient ». Et elle est maintenant, remarquez maintenant, alors cela a commencé cette heure où il abolit le culte à Jérusalem et sur la montagne, et de tels adorateurs qui ne savaient pas ce qu'ils adoraient. Mais l'heure vient, et elle est maintenant. Maintenant remarquez, vous tous les peuples sur la terre, adorateurs de toutes sortes, vous qui adorez ce que vous ne connaissez pas, et qui êtes hors de ce vrai culte, ici vous pouvez voir que Christ a établi un culte, et qu'il y a plus de 1600 ans qu'il a commencé, et ici vous pouvez voir qui sont les vrais adorateurs, qui adorent le Père en esprit et en vérité, et ici vous pouvez voir qui sont ceux que le Père cherche pour l'adorer, tels que ceux qui sont dans l'esprit et ceux qui sont dans la vérité. Ainsi il est clair que nul n'est véritable adorateur du Père, si ce n'est celui qui est dans la vérité dont le diable est sorti, car le diable ne s'y est pas tenu. Nul n'est véritable adorateur du Père si ce n'est celui qui est dans l'Esprit. Oui, dans cet Esprit qui mortifie le péché, et cet Esprit par lequel le corps de mort et les péchés de la chair sont dépouillés. Ainsi il est clair que tous ceux qui sont hors de l'Esprit et hors de la vérité sont de faux adorateurs, et non de vrais, et de tels le Père ne les cherche pas pour l'adorer. Car Dieu est Esprit, et ceux qui l'adorent doivent remarquer l'adorer en Esprit et en vérité, car Dieu est Esprit, et il est le Dieu de vérité qui ne change pas. Chaque homme et chaque femme dans le monde doit venir à l'Esprit de Dieu dans son cœur, par lequel esprit ils doivent avoir l'intelligence pour connaître Dieu, qui est esprit, et ainsi l'adorer en esprit. Or il y a l'adoration des anges, le culte volontaire, le culte qui était à Jérusalem, et le culte sur la montagne, le culte de la baie et du dragon, les cultes que les hommes et toutes les nations ont inventés, mais le culte en esprit et en vérité que Christ a établi il y a plus de 1600 ans, est le vrai culte, et les adorateurs qui s'y trouvent sont ceux que le Père cherche. Ainsi je dis, ce culte que Christ a établi en esprit et en vérité, et les vrais adorateurs qui y adorent, que le Père cherche, sont placés au-dessus de tous les adorateurs du culte volontaire, des adorateurs des anges, des adorateurs de la baie et du dragon, et au-dessus du culte de la montagne et du puits de Jacob, et du culte de Jérusalem, et de tous les cultes que les hommes ou les nations ont inventés. Ainsi chaque homme ou femme dans le monde entier doit venir à l'Esprit de Dieu et à la vérité qui vient de Christ dans ses parties intérieures, s'il veut être un véritable adorateur qui adore Dieu en esprit et en vérité, ou être de ce que le Père cherche pour l'adorer, car Dieu est esprit, et il est le Dieu de vérité, et c'est pourquoi ils doivent tous être dans l'esprit et dans la vérité, s'ils sont de vrais adorateurs et adorent Dieu, le Dieu de vérité qui est esprit car ce sont elles qu'ils cherchent, et tous ceux qui sont hors de l'esprit adorent. Voilà toutes les sectes, et ceux qui attristent et éteignent l'esprit, et ne viennent pas à la vérité dans leur partie intérieure, et ceux qui se bouchent les oreilles et ferment les yeux à ce qui est Dieu en eux, comme les Juifs et les Pharisiens, et qui ruent contre ce qui les aiguillonne comme Saul, et tels qui haïssent la vraie lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde, et qui marchent avec mépris contre l'Esprit de grâce, et tels qui se rebellent contre l'Esprit de Dieu qui leur est donné pour les instruire et pour le bien de tous, Nées 9, 20-26. Tous ceux-là n'adorent pas Dieu en esprit et en vérité, mais ils adorent ce qu'ils ne connaissent pas, comme Christ l'a dit, c'est pourquoi chaque homme et chaque femme dans le monde entier doit venir à la vraie lumière de Christ, et à l'Esprit, et à la grâce en eux-mêmes, s'ils veulent être de vrais adorateurs de Dieu en esprit et en vérité. Et le culte que le Christ Jésus, l'homme céleste, le second Adam, le Seigneur venu du ciel, l'homme spirituel, a établi il y a plus de 1600 ans, dans l'esprit et dans la vérité, afin que les vrais adorateurs y adorent ce que Dieu recherche. Je dis que c'est un culte infaillible, ou un culte éternel, car la vérité est infaillible, et l'Esprit de Dieu est infaillible et éternel, en lequel ils adorent le Dieu éternel et la vérité. Et l'Esprit de Dieu ne change pas, quoique les hommes puissent s'en détourner. Car la vérité ne fait ni secte ni schisme, puisque toutes les sectes et tous les schismes en sont hors. Et l'Esprit de Dieu ne fait ni secte ni schisme, puisque toutes les sectes sont hors de l'Esprit de Dieu et hors de la vérité. Car le dragon, le diable, le destructeur et la bête sont hors de la vérité, ainsi que ses adorateurs et ceux qui pratiquent un culte de volonté. Car le diable n'a point demeuré dans la vérité, et tous ceux qui adorent ce qu'ils ne connaissent pas sont hors de la vérité et de l'Esprit de Dieu. Ainsi si toute la chrétienté était demeurée dans l'Esprit et dans la vérité où étaient les apôtres et l'Église primitive, elle aurait maintenu le culte du Christ, et y serait restée, comme firent les apôtres, celui qui l'a établi il y a plus de 1600 ans. Il n'y aurait eu parmi eux aucune secte, mais ils seraient demeurés dans le culte substantiel, car la vérité est substantielle, et la vérité ne change pas, et l'Esprit de Dieu ne change pas, mais il amène les gens à être substantiels dans le culte substantiel, et dans l'Esprit ils auraient eu une communion et une unité. C'est pourquoi pour que tous les hommes sortent des cultes sectaires, des cultes de volonté, et de l'adoration des anges, adorant ce qu'ils ne savent pas, et pour être les vrais adorateurs que Dieu recherche, ils doivent tous, chaque homme et chaque femme, venir à la vérité et à l'Esprit de Dieu dans leur propre cœur, par lesquels ils peuvent adorer Dieu en esprit et en vérité, ce dont le diable est hors, et être les adorateurs substantiels que le Christ a établis il y a plus de 1600 ans. Car tous ceux qui n'adorent pas Dieu en esprit et en vérité sont dans le faux esprit, et tous ceux qui n'adorent pas Dieu dans la vérité sont hors de la vérité, et de celui qui est hors de la vérité. Car le Christ Jésus, ce qui signifie un sauveur, est loin de Dieu, qui est venu racheter l'homme de l'iniquité, sauver l'homme du péché, mettre fin à la transgression, être le médiateur de l'homme et de la femme, racheter l'homme de la transgression, verser son sang et mourir pour l'homme, lui qui écrase la tête du serpent qui a tenu l'homme en captivité, qui le mène captif, et qui a franchi l'homme de sa prison, de la mort, des ténèbres et de la servitude, lui qui est hors de la vérité. Ainsi le Christ, la vérité, établit un culte pour. Ceci, dis-je, est le culte substantiel, où le diable ne peut venir avec son esprit d'erreur faux, menteur et meurtrier. Il ne peut venir dans la vérité, ni dans l'Esprit de Dieu. Dans cette vérité et cet esprit, les vrais adorateurs adorent le Dieu de toute vérité, qui est un esprit. Et je dis que c'est le culte vrai, sûr, substantiel et infaillible que le Christ a établi, lui qui est la vérité, et un esprit vivifiant, il y a plus de 1600 ans. Dans ce culte, il n'y a ni secte, ni schisme, ni discorde, car tout cela est hors de la vérité. Car la concorde est dans l'esprit et dans la vérité, puisque l'unité et la communion sont dans l'esprit, et il est appelé le lien de la paix. Et dans cet esprit et cette vérité, ils doivent adorer le Dieu de vérité, qui est un esprit. Ainsi les Juifs aveugles, avec les scribes, les prêtres et les pharisiens, qui pensent aller adorer à Jérusalem, le Christ dit à vos pères, il y a plus de 1600 ans, que Dieu ne devait pas être adoré là, ni sur la montagne. Et par conséquent, vous devez croire en lui, votre Sauveur, et reconnaître son culte en esprit et en vérité. Or, si toute la chrétienté a les Écritures du Nouveau Testament, comme les Juifs avaient l'Ancien, et n'adore pas Dieu en esprit et en vérité, ce dont le diable est hors mais se fait des cultes à sa façon et contraint les hommes, elle adore ce qu'elle ne sait pas. Car c'était le dragon et la bête qui persécutaient au sujet du culte, tant chez les Juifs au jour du Christ dans la chair que depuis, au jour de son apparition spirituelle par le Saint-Esprit, chez ceux qui étaient hors de l'esprit de Moïse et des prophètes, du Christ et de ses apôtres. Ainsi les Juifs extérieurs devaient aller chaque année à la Jérusalem extérieure pour adorer, sinon leurs yeux devaient se consumer dans leur tête et leur langue dans leur bouche, et les fléaux et jugements de Dieu devaient venir sur eux. Zacharie 14-12. Ainsi tous ceux qui ne sont pas dans l'esprit et dans la vérité, par lesquels ils doivent adorer le Dieu de vérité, qui est un esprit, et venir ainsi à la Jérusalem céleste qui est d'en haut, la mère de tous les vrais chrétiens. Je dis que l'œil qui est hors de la vérité et hors de l'esprit est sous un fléau et se consumera dans leur tête et leur bouche. Car tous les Juifs qui, en esprit et en vérité dans leurs parties intérieures, adorent Dieu en esprit et en vérité, ceux-là sont les vrais adorateurs que le Père cherche pour l'adorer. Et maintenant Dieu en a trouvé beaucoup, que son nom soit loué à jamais. Je dis qu'ils viennent à la Jérusalem d'en haut, la mère de nous tous qui sommes les vrais adorateurs, et qu'ils voient la Jérusalem d'en bas en servitude avec ses enfants. Or tous les hommes étant morts en Adam et s'étant égarés, juifs et gentils, et le Christ le semeur étant venu qui sème sa semence sur tous les terrains, et étant venu pour faire voir ce qui ne voyait pas, et pour aveugler ce qui disait voir et ne voyait pas comme il y en a trop de nos jours, et sa grâce est apparue à tous les hommes et a éclairé tous, et a goûté la mort pour tous, et la manifestation de son esprit est donnée à chaque homme pour le profit de tous. Ainsi ici le Christ n'a fait aucune secte, mais ce sont les faiseurs de sectes qui s'éloignent de sa vraie lumière, s'éloignent de sa parole et de sa semence, et s'éloigne de la manifestation de son esprit donné à chaque homme pour le profit de tous. Le Christ a donné à chaque homme une mesure selon sa capacité, et ainsi ceux qui s'éloignent de leur mesure que le Christ leur a donnée sont les faiseurs de sectes et se trouvent dans les schismes, alors ils peuvent dire qu'ils n'ont pas de capacité, mais ils ont, semble-t-il, la capacité de faire le mal, et par conséquent ce sont ceux qui se retournent contre les vrais adorateurs. Par conséquent, tout homme et toute femme qui sont de vrais croyants en Christ Jésus le Sauveur viennent à leur mesure que le Christ leur a donnée, à la lumière et à la semence que le Christ a semée dans leur champ, leur cœur, et au Saint-Esprit qui les reprend, et à la manifestation de l'Esprit de Dieu donné pour le profit de tous. Et s'ils sont les vrais adorateurs en esprit et en vérité, ils sortent des sectes et cessent de faire des sectes. Alors il n'y aurait aucune secte dans la chrétienté, ni dans le monde, ni parmi les Juifs, si tous voulaient venir à la vérité dans leurs parties intérieures, à l'Esprit de Dieu au-dedans, et dans cet esprit et cette vérité adorer Dieu, qui est un esprit, et qui est la vérité. Alors ils adoreraient dans ce où le diable ne peut entrer, car il est hors de la vérité. Ainsi je dis que si tous les gens du monde entier venaient dans l'esprit et venaient dans la vérité, en lesquels ils doivent adorer le Dieu de vérité, ils seraient tous dans l'unité, dans la vérité et dans l'esprit. De même que tous les gens ont été dans la tromperie et le mensonge, hors de la vérité, et dans le faux esprit, hors du vrai. De même tous les gens, hommes et femmes, doivent venir dans le vrai, sortir du faux esprit, et venir dans la vérité en sortant du mensonge et de la tromperie, s'ils sont les vrais adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité, car tels sont ceux qu'ils cherchent pour l'adorer. Car ceci, comme je l'ai dit auparavant, est le culte substantiel que le Christ a établi pour ses rachetés et ses sauvés qui avaient été sous la puissance de Satan et de son faux esprit, qui avaient été trompés par celui qui n'a point demeuré dans la vérité. C'est pourquoi le Christ, le Sauveur et Rédempteur, qui est la vérité, qui écrase la tête du serpent, établit un culte en esprit et en vérité, dont le diable est hors. C'est le culte parfait et substantiel, car la vérité est parfaite et subsistera, et l'Esprit de Dieu, dans lequel les vrais adorateurs en esprit et en vérité adorent. Je dis que ce culte en esprit et en vérité subsistera, quand tous les cultors de l'Esprit et de la vérité auront disparu, que le Christ, le Fils de Dieu, la vérité venue de Dieu, a établi il y a plus de 1600 ans. Béni et loué soit Dieu par lui à jamais. Amen. George Fox Kingston, le 9 du 8 mois, 1673. Fin du volume 4. Retour à l'index de la doctrine. Le but de ce site web est de montrer comment être libéré du péché en bénéficiant de la puissance transformatrice de Dieu par la croix, qui conduit à l'union avec Dieu dans son royaume.